Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici ensemble pour la suite du roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville. Premier rapport du docteur Watson. Pour mieux retracer le cours des événements, je vais recopier mes propres lettres à M. Sherlock Holmes. À l'exception d'une page qui manque, je les transcris telles que je les ai rédigées. Elles montreront les détours de mes sentiments et de mes soupçons avec plus de précision que ne pourrait le faire ma mémoire. Baskerville Hall, 13 octobre. Mon cher Holmes, mes lettres précédentes ainsi que mes télégrammes vous ont tenu au courant de tout ce qui s'est passé dans ce coin isolé du monde. Plus l'on reste ici, plus l'esprit de la lande insinue dans l'âme le sentiment de son infini et exerce son sinistre pouvoir d'envoûtement. Quand on se promène pour pénétrer jusqu'à son cœur, on perd toute trace de l'Angleterre moderne. Mais on trouve partout des habitations et des ouvrages datant de la préhistoire. Où que l'on aille, ce ne sont que maisons de ces peuples oubliés dont les temples sont, croit-on, les énormes monolithes que l'on voit. Quand on contemple leurs tombeaux, ou les cabanes en pierre grise qui s'accrochent au flanc des collines, on se sent tellement loin de son époque que si un homme chevelu, vêtu de peau de bête, se glissait hors de sa porte basse et ajustait une flèche à son arc, sa présence paraîtrait encore plus naturelle que la mienne. Ce qui m'étonne est que ces représentants de la préhistoire ont vécu en grande colonie sur un sol qui n'a jamais dû être fertile. Je ne suis pas un spécialiste de l'Antiquité, mais j'imagine volontiers qu'il s'agissait d'une race peu guerrière, que des vainqueurs ont contraint à accepter ce que personne d'autre ne voulait occuper. Ces considérations sont toutefois étrangères à la mission que vous m'avez confiée, et je doute qu'elles intéressent votre esprit rigoureusement pratique. Je me rappelle encore la parfaite indifférence que vous avez manifestée relativement à la question de savoir si le soleil tournait autour de la terre ou la terre autour du soleil. Je reviens donc aux faits concernant Sir Henry Baskerville. Si vous n'avez pas eu de rapport ces jours derniers, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien produit qui méritât une relation. Puis, un incident très surprenant est intervenu, que je vous narrerai en son temps. Mais auparavant, il faut que je vous énumère les autres données de la situation. L'une d'elles, sur laquelle je ne m'étais guère étendu, est la présence sur la lande du forçat évadé. Il y a maintenant de bonnes raisons pour croire qu'il est allé se faire pendre ailleurs, ce qui apporte une satisfaction évidente aux habitants isolés de la région. Une quinzaine s'est écoulée depuis son évasion. Pas une fois il n'a été vu, et il n'a jamais fait parler de lui. Il est inconcevable qu'il ait tenu la lande tout ce temps-là. Bien sûr, il a toutes les facilités pour se cacher. N'importe quelle cabane en pierre peut lui servir de refuge, mais il n'a rien à manger, à moins qu'il ne capture et n'abatte des moutons sur la lande. Nous pensons plutôt qu'il est parti et les fermiers des environs dorment plus tranquilles. Dans cette maison, nous sommes quatre hommes valides et robustes. Aussi n'avions-nous rien à craindre. mais j'avoue que j'ai été mal à l'aise chaque fois que j'ai pensé aux Stapleton. Ils habitent à plusieurs kilomètres de tout secours. Il y a là une femme de chambre, un vieux domestique, la sœur et le frère, celui-ci n'ayant rien d'un athlète. Il serait sans défense devant un gaillard prêt à tout comme ce bandit de Notting Hill, si seulement il prenait la peine d'entrer. Sir Henry s'inquiète aussi de leur situation. Nous avions suggéré que Perkins, le valet, alla coucher chez eux, mais Stapleton n'a rien voulu entendre. Le fait est que notre ami le baronnet commence à manifester un intérêt considérable pour notre jolie voisine. Un sentiment qui n'a rien de surprenant, car dans ces lieux déserts, le temps pèse lourdement à un homme aussi actif. Par ailleurs, elle est d'une beauté fascinante. Dans son charme, il y a quelque chose de tropical, d'exotique, qui contraste singulièrement avec la froideur et l'insensibilité de son frère. Celui-ci pourtant donne parfois l'impression que certains feux couvent en lui. Il exerce certainement une forte influence sur sa sœur, car j'ai remarqué qu'elle le regardait constamment quand elle parlait, comme si elle quêtait son approbation. J'espère qu'il est gentil avec elle. Dans son regard, il y a une lueur sèche et des lèvres minces qui se contractent parfois, ce qui indiquerait un tempérament positif, peut-être dur. Vous le jugeriez digne d'une étude particulière. Et il s'est présenté à Baskerville dès ce premier jour, et le lendemain matin, il nous a conduits à l'endroit où l'on croit qu'a pris naissance la légende du méchant Hugo. Ce fut une excursion de plusieurs kilomètres à travers la lande, vers un cadre si lugubre que sa tristesse a peut-être suggéré l'histoire. Une courte vallée bordée de rocs déchiquetés aboutit à une clairière herbeuse. Au centre se dressent deux grandes pierres usées et terminées en pointe, on dirait les crocs énormes d'une bête monstrueuse. Chaque détail correspond à la scène légendaire. Sir Henry demanda plusieurs fois à Stapleton s'il croyait vraiment à l'intervention du surnaturel dans les affaires humaines. Il parlait sur un ton léger, mais il était très sérieux. Stapleton lui répondit évasivement. Certes, il ne voulait pas exprimer toute son opinion par respect pour les sentiments du baronnet. Il nous cita d'autres exemples de familles qui avaient eu à souffrir d'une mauvaise influence, et il nous laissa sur l'impression qu'il partageait la croyance populaire sur l'affaire. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâmes pour déjeuner à Mary Pitt. Sir Henry fit donc la connaissance de Miss Stapleton. Du premier moment où il l'aperçut, il sembla charmé. Et je me tromperais grandement si cette attraction n'était pas payée de retour. En rentrant au manoir, il ne tarit pas d'éloges à son sujet. Depuis lors, il ne s'est pas passé un jour sans que nous ayons vu le frère et la sœur. Il dîne ici ce soir et il est déjà question que ce repas nous soit rendu la semaine prochaine. On imagine aisément ce qu'une telle alliance apporterait à Stapleton. Néanmoins, j'ai noté plus d'une fois sur son visage des signes de désapprobation quand Sir Henry extériorisait l'intérêt qu'il portait à sa sœur. Sans doute, Stapleton lui est-il beaucoup attaché et privé de sa compagnie mènerait-il une existence bien solitaire. Mais ce serait le comble de l'égoïsme s'il empêchait de faire un mariage brillant. Pourtant, je suis certain qu'ils ne désirent pas que leurs sentiments éclosent en amour. Ainsi, ils veillent à ne pas les laisser en tête à tête. À propos, les instructions que vous m'avez données, qui recommandent d'empêcher Sir Henry de sortir seul, deviendront bien délicates si une amourette s'ajoute aux autres obstacles. Je perdrai beaucoup de mon influence si je suivais vos ordres à la lettre. Le surlendemain, jeudi pour être exact, le docteur Mortimer déjeuna avec nous. Il avait pratiqué des fouilles dans une carrière à Lankdown. Il en avait ramené un crâne préhistorique. Il était ivre de joie. Les Stapleton survinrent ensuite. Le bon docteur nous conduisit dans l'allée des ifs à la requête de Sir Henry, qui voulait savoir exactement comment s'étaient déroulés les événements de la nuit fatale. C'est une longue avenue fort triste qui s'allonge entre deux hauts murs de haies bien taillés avec une étroite bande de gazon de chaque côté. Elle aboutit à un vieux pavillon croulant. À mi-chemin, une porte à claire-voie donne sur la lande. Celle devant laquelle Sir Charles a secoué la cendre de son cigare. Cette porte en bois blanc est munie d'un cadenas. Derrière elle s'étend la lande, à perte de vue. Je me suis rappelé votre thèse et j'ai essayé de me représenter tout ce qui était arrivé. Pendant que le vieil homme se tenait là, il vit quelque chose qui surgissait de la lande, quelque chose qui l'épouvanta au point qu'il en perdit la tête et qu'il courut jusqu'à ce qu'il tombât foudroyé par l'horreur et l'épuisement. J'étais dans ce long tunnel sombre qu'il avait choisi pour fuir. Mais fuir quoi? Un chien de berger de la lande? Ou un chien fantôme, noir, silencieux, monstrueux? Un être humain était-il intervenu? Le pâle et attentif Barrymore en savait-il plus qu'il ne se souciait d'en dire? Toujours est-il que l'ombre du crime se profile toujours derrière ce décor. J'ai vu un autre voisin depuis ma dernière lettre, Monsieur Frankland de Laughter Hall, qui habite à 7 kilomètres au sud du manoir. C'est un homme âgé, au visage rouge et aux cheveux blancs, irascible. Il n'a qu'une passion, la loi. Il a dépensé une fortune dans des procès et il plaide pour le simple plaisir de la chicane. Et il est également disposé à soutenir l'un ou l'autre aspect d'un litige. Il trouve que sa distraction lui coûte cher. Qui s'en étonnerait? Parfois, il clôt une jouissance de passage et il met la paroisse au défi de la lui faire rouvrir. Ou bien il brise de ses propres mains une barrière qui ne lui appartient pas, assure qu'un chemin existait là de temps immémorial. Il interdit au propriétaire de le poursuivre s'il se promène dans son domaine. Il connaît à fond le vieux droit seigneurial et communal. Il lui arrive d'appliquer sa science tantôt en faveur des villageois, tantôt contre eux. Il est alors périodiquement porté en triomphe dans la grande rue du village ou brûlé en effigie sur la place publique, selon la version qu'il a choisie. La loi mise à part, il paraît aimable, avenant, et je ne vous parle de lui que parce que vous avez insisté pour que je vous envoie le portrait de tous ceux qui nous entourent. Il a pour l'instant des occupations curieuses. En effet, il est astronome amateur et il possède un excellent télescope. Aussi se tient-il tout le jour sur le toit de sa maison et il explore la lande avec sa lunette dans l'espoir de retrouver trace du forçat évadé.
That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
that you'll understand my mission.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au chien des Baskerville après la pause musicale. Et maintenant, vous ayant mis à la page en ce qui concerne le forçat évadé, les Stapleton, le docteur Mortimer et Frackland de l'Afterhall, je terminerai sur le plus important. Je veux insister en effet sur les Barrymore, et particulièrement sur l'effet surprenant de la nuit dernière. Ceci d'abord à propos du télégramme test que vous aviez envoyé de Londres, afin d'avoir la preuve que Barrymore était réellement ici. Je vous ai déjà expliqué que le témoignage du chef du bureau de poste montrait que le test s'était avéré sans valeur et que nous n'avions de preuve ni dans un sens ni dans un autre. Mais j'ai mis Sir Henry au courant et lui, tout de suite, à sa manière directe, a convoqué Barrymore et lui a demandé si le télégramme lui avait été remis en main propre. Barrymore assura que oui. « Le petit facteur vous l'a-t-il vraiment délivré en main propre ?» insista Sir Henry. Barrymore parut surpris. Il réfléchit quelques instants. « Non, répondit-il, j'étais dans la chambre de débarras à ce moment-là, et ma femme me l'a apporté. »« Avez-vous répondu vous-même ?»« Non. » J'ai dit à ma femme ce qu'il fallait répondre et elle est redescendue pour l'écrire. Dans la soirée, il revint sur le sujet. Je n'ai pas tout à fait compris le sens de vos questions de ce matin, Sir Henry, dit-il. J'espère qu'elles ne signifient pas que j'ai démérité de votre confiance. Sir Henry dut lui certifier qu'il n'en était rien, et il l'apaisa en lui donnant une partie de sa garde-robe d'Amérique, celle de Londres étant enfin arrivée. Madame Barrymore m'intéresse. C'est une personne solide, épaisse, bornée, immensément respectable, et qui penche vers le puritanisme. Pourtant, je vous ai raconté qu'au cours de ma première nuit ici, je l'avais entendu sangloter amèrement. Depuis lors, j'ai observé plus d'une fois des traces de larmes sur son visage. Un chagrin profond la tenaille. Parfois, je me demande si elle ne se sent pas coupable d'une faute qui l'obsède. Parfois aussi, je soupçonne Barrymore d'être un tyran domestique. J'ai toujours senti que le caractère de cet homme comportait de la singularité et du mystère. L'aventure de cette nuit a fortement aggravé mes soupçons. L'affaire en elle-même paraît mince. Vous savez que je n'ai pas le sommeil lourd. Et depuis que dans cette maison je me tiens sur mes gardes, il est plus léger que jamais. La nuit dernière, vers 2 heures du matin, je fus réveillé par un bruit de pas léger dans le couloir. Je me levai, ouvris la porte, inspectai les alentours. Une grande ombre noire avançait dans le couloir, projetée par un homme qui marchait doucement et qui tenait à la main une bougie. Il n'était vêtu que d'une chemise et d'un pantalon. Il avait les pieds nus. D'après sa taille, c'était Barrymore. Il marchait très lentement, avec beaucoup de précautions dans tout son aspect. Il y avait quelque chose d'indiciblement coupable et furtif. Je vous ai indiqué que le couloir est interrompu par la galerie qui court le long du vestibule, mais qu'il se prolonge de l'autre côté. J'ai attendu qu'il ait avancé, puis je l'ai suivi. Quand je suis arrivé à la galerie, il avait atteint l'extrémité de l'autre couloir et j'ai pu voir, par une lueur qui filtrait d'une porte ouverte, qu'il était entré dans l'une des chambres. Comme toutes ces chambres sont vides de meubles et inoccupées, son expédition me sembla inexplicable. La lueur brillait paisiblement, comme s'il se tenait immobile. Je me faufilai dans le couloir, sans bruit, et je regardai par l'entrebâillement de la porte. Paris-Mort était collé le nez à la fenêtre, en maintenant la bougie contre la vitre. Je le voyais de trois quarts. Sa figure était contractée, il scrutait la nuit sur la lande. Pendant quelques minutes, il fouilla l'obscurité avec un regard intense. Puis il poussa un grognement et d'un geste impatient, il souffla la bougie. Aussitôt, je réintégrai ma chambre. Des pas furtifs ne tardèrent pas à m'indiquer que Barrymore repassait devant ma porte. Bien après, alors que j'étais retombé dans un sommeil léger, j'entendis une clé tourner quelque part dans une serrure. Mais je ne saurais dire où exactement. La signification de tout cela m'échappe. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'une affaire secrète se trame dans ce sinistre manoir, et que tôt ou tard nous aurons à en sonder le fond. Je ne vous agacerai pas avec les théories que ma tête élabore, puisque vous m'avez prié de me border aux faits. Ce matin, j'ai eu une longue conversation avec Sir Henry, et nous avons envisagé un plan de campagne fondé sur mes observations de la nuit dernière. Je ne vous en parle pas à présent, mais il devrait me fournir l'occasion d'un prochain rapport bien intéressant. Lumière sur la lande, second rapport du docteur Watson. Baskerville Hall, le 15 octobre. Mon cher Holmes, si je ne vous ai pas communiqué beaucoup de nouvelles pendant les premiers jours de ma mission, reconnaissez que je m'emploie à rattraper le temps perdu. Les événements fondent sur nous, rapides et serrés. Dans mon dernier rapport, je terminais en vous racontant l'épisode de Barrymore à la fenêtre. Et j'ai en main à présent de quoi vous surprendre grandement. Les choses ont pris un cours que je ne pouvais pas prévoir. Dans les dernières 48 heures, elles se sont à la fois clarifiées et compliquées. Mais je vais tout vous dire, et après quoi vous pourrez juger. Au matin qui succéda à mon aventure nocturne avant de descendre pour le petit déjeuner, je passai dans le couloir et j'examinai la chambre où j'avais vu entrer Barrymore. La fenêtre ouest par laquelle il avait fouillé les ténèbres avec tant d'attention possède, je l'ai remarqué, une particularité qui la distingue de toutes les autres fenêtres. C'est de derrière ces carreaux que l'on a la meilleure vue sur la lande. Entre deux arbres, une éclaircie permet à partir de cet observatoire de percer loin à travers la lande, tandis que de toutes les autres fenêtres, on la distingue mal. Il s'ensuit donc que Barrymore, puisqu'il est allé à cette fenêtre, devait chercher quelque chose ou quelqu'un sur la lande. La nuit étant fort sombre, je me demande comment il aurait pu distinguer quoi que ce fût. Je songeais à une intrigue amoureuse, ce qui aurait expliqué son pas furtif ainsi que le chagrin de sa femme. Par ailleurs, Barrymore est un bel homme tout à fait capable de capter le cœur d'une fille de la campagne. Ma théorie se défendait donc assez bien. L'ouverture d'une porte, je l'avais entendue après que je fus rentré dans ma chambre, pouvait signifier qu'il était sorti pour un rendez-vous clandestin. Voilà quels furent mes raisonnements du matin, ainsi que l'orientation de mes soupçons, dont j'appris par la suite combien ils étaient mal fondés. Mais quelle que pût être la véritable explication des faits et gestes de Barrymore, je me sentis incapable d'assumer seul la responsabilité du secret que j'avais surpris. Après le petit déjeuner, je me rendis dans le bureau du baronnet et je le mis au courant. Il parut moins étonné que je ne m'y attendais.
Je savais que Barrymore se promenait de nuit, me dit-il, et j'avais l'intention de lui en toucher un mot deux ou trois fois. J'ai entendu son pas dans le couloir, ses allées et venues, à peu près à l'heure que vous m'indiquez.
Bah, peut-être alors se rend-il toutes les nuits à cette fenêtre particulière, hasardai-je.
Ah, peut-être. S'il en est ainsi, nous devrions pouvoir le suivre et savoir ce qu'il cherche.
Je me demande ce que ferait notre ami Holmes s'il était ici.
Je crois qu'il ferait exactement ce que vous suggérez, lui répondis-je. Il suivrait Barrymore et il verrait ce qu'il fait.
Alors nous le surveillerons ensemble.
Mais il nous entendra.
Bon, il est un peu dur d'oreille. En tout cas, nous devons courir ce risque. Nous nous installerons ce soir dans ma chambre et nous attendrons qu'il passe devant ma porte.
Sir Henry se frotta les mains avec contentement. Cette aventure lui apparaissait comme une distraction.
Il faut que je vous dise que le baronnet s'est mis en rapport avec l'architecte qui a travaillé au plan de Sir Charles, ainsi qu'avec un entrepreneur de Londres. Nous pouvons donc nous attendre à de grands changements prochains. Notre ami a évidemment de vastes projets et il n'entend épargner ni peine ni dépense pour restaurer la grandeur de sa famille.
Quand il aura modernisé et meublé le manoir, il ne lui manquera plus qu'une épouse. Entre nous, certains signes révèlent que cette lacune sera comblée si certaines demoiselles y consentent, car j'ai rarement vu un homme plus amoureux que le baronnet avec sa ravissante voisine, Mademoiselle Stapleton. Hélas, le cours du véritable amour ne coule pas aussi uniment qu'on pourrait l'espérer. Aujourd'hui, par exemple, une ride tout à fait imprévue a provoqué chez notre ami autant de perplexité que de soucis. Après l'entretien qui m'avait permis de parler de Barrymore, Sir Henry se coiffa d'un chapeau et se prépara à sortir. Je l'imitai.
« Comment ? M'accompagneriez-vous, Watson ? » me demanda-t-il en me dévisageant curieusement.
Bah, « Cela dépend. Allez-vous sur la Londres ? »
« Oui. »
« Alors vous connaissez mes instructions. Je suis désolé de faire figure d'intrus, mais vous avez entendu Holmes insister avec quel sérieux pour que vous ne vous promeniez pas tout seul sur la lande. »
Sir Henry posa une main sur mon épaule et me sourit gentiment.
« Mon cher ami, me dit-il, Holmes, avec toute sa sagesse, n'a pas prévu différentes choses qui se sont produites depuis mon arrivée. »
Vous me comprenez.
Je suis sûr que vous êtes le dernier homme au monde à vouloir faire figure de gêneur. Je dois sortir seul.
Voilà donc pour aujourd'hui ces aventures de Sherlock Holmes et du chien des Baskerville que nous retrouverons demain.
Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.